vous dans votre bureau, vous bricolez, ce que je vois.
Oui.
D'après votre femme, c'est une de vos passions, enfin, un de vos loisirs, on va dire.
Parmi mes loisirs, il y a effectivement la bricole. J'aime bien faire les choses. J'aime bien faire les choses comme je les vois, comme je les imagine au moment où je m'endors, au moment où je me réveille. J'aime bien faire des choses qui ont un, comment dirais-je, à la fois un côté créatif, parce que la conception, le montage, etc. sont les miens, et puis que la réalisation est la mienne aussi. Donc effectivement, je passe des heures à scier, visser, peindre, etc. Oui.
Poncer aussi.
Oui, ben oui, pour faire une bonne peinture, il faut toujours poncer. Hein.
Et c'est votre nouveau bureau, donc.
Donc, ici, nous sommes dans nos nouveaux bureaux, ou mes nouveaux bureaux, et comme c'est un petit studio qui était tout neuf, et pas habité, et pas aménagé, etc., je m'amuse à le rendre, j'essaye de le rendre un peu plus agréable à vivre. Donc, pour l'instant, je m'occupe de mettre dans le cabinet de toilette un éclairage, un miroir, un meuble sous la vasque du lavabo, pardon. Je m'amuse à essayer de décorer. Je mets mes objets personnels, les choses qui me rappellent des souvenirs. J'essaye de me faire un coin. C'est pas une nécessité, mais j'aime bien faire un coin où je me sens chez moi, dans mon antre, avec mes objets, mes collègues, mes collections, les choses qui me sont un peu chères. J'attends que mon épouse ait fini de faire, par exemple, une série d'encadrements de photos qui me rappellent ou qui me donnent des souvenirs, qui me rappellent des souvenirs de gens que j'aime ou que j'ai bien aimé. Parce que les bureaux impersonnels, c'est fini, quoi. J'aime bien avoir envie d'aller bosser, et cet environnement me donne effectivement envie d'aller bosser, oui.
Et oui, effectivement, vous parliez de vos collections. Là, on voit une collection de balles de golf. Parce que apparemment, vous jouez au golf.
Non, alors ça, si on doit parler du golf, à mon avis, il va falloir acheter une cartouche de 155 mégas. Oui, effectivement, d'abord, je joue au golf depuis quelques années. C'est mon beau-père, si je ne me trompe pas, qui m'a inculqué ce vice ou cette passion. L'avantage du golf, pour moi, il est triple. Le premier, c'est que ça nécessite une concentration et ça nécessite d'avoir des sensations. Donc ça oblige à s'appliquer, à faire quelque chose. J'ai toujours joué au tennis comme une chèvre ou fait de la natation comme un fer à repasser. Parce que je ne me suis jamais appliqué. J'ai une vieille tendance à faire les choses que je ressens et pas à faire les choses comme il faut les faire. Là, l'avantage du golf, c'est que d'abord, ça me vide la tête par rapport à ma vie professionnelle ou par rapport à ma vie sociale. Ça me vide la tête puisque ça nécessite de la concentration. Ensuite, ça apporte quelques plaisirs parce que quand on envoie la balle à 200 mètres, ça m'est arrivé plusieurs fois hier, j'en suis très fier. C'est assez agréable de voir qu'on arrive à coordonner ses mouvements, son geste, son tempo, son rythme, etc. Et d'envoyer une balle en ligne droite à 200 mètres, alors que ceux qui n'ont jamais fait de golf vous diront c'est simple, mais je les mets au défi de toucher la balle, qu'elle se déplace de 20 cm la première fois. C'est un deuxième avantage, c'est que on respire, on se balade, on fait un peu de sport ou tout au moins on fait des kilomètres. C'est un troisième avantage, c'est que c'est quelque chose d'assez convivial, puisque même si c'est un jeu individuel, même si c'est un sport individuel ou un jeu individuel, on a la chance de rencontrer des gens qui s'appliquent eux aussi, qui se battent et qu'il faut battre s'ils sont plus appliqués, s'ils sont plus performants ou s'ils sont plus jeunes, parce que c'est sûr que la jeunesse compte beaucoup dans ce sport. J'ai vu des gamins de 15 ans jouer comme des dieux, parce qu'ils sont beaucoup plus souples, beaucoup plus déliés, beaucoup moins stressés, beaucoup moins tendus dans leur tête, et par conséquent, ils traversent la balle comme si c'était naturel, alors que moi j'ai une vieille tendance à planter un clou. Donc pour toutes ces raisons, le golf est à la fois un dérivatif, un sport, une aération, un vidage de tête qui font que j'aime beaucoup. Et comme j'ai la chance de jouer au golf dans une association de gens sympas, où on a tous effectivement envie de progresser ou de faire des scores sans forcément se prendre la tête et sans forcément considérer que la dernière tenue de chez je sais pas qui, c'est le must du golf. On n'a pas affaire à des gens qui font semblant ou qui sont là pour se montrer. On a affaire à des gens qui ont envie de jouer ou qui ont envie d'être ensemble. C'est plus que sympa. Hier, il faisait froid. Quand on est rentré, on a tous pris un chocolat chaud, alors qu'à nos âges, en général, on prend tous un Pernod ou un whisky. On a tous pris un chocolat chaud. C'était hyper convivial dans un clubhouse où il y avait un feu de cheminée. C'était bien. Non, j'aime bien.
C'était loin.
C'est l'inconvénient de la région parisienne, c'est que c'était à 1h15 de là où on habite, après avoir fait l'autoroute, le périphérique, l'autoroute, les chemins vicinaux, etc. etc. Mais on arrive dans des endroits sympas, il y avait des cygnes, il y avait des corbeaux, il y avait des pies. En été, il y a des animaux beaucoup plus sympas. C'était sympa.
Il y a des animaux qu'il ne faut pas rencontrer.
Pardon ?
Il y a des animaux qui
aiment. Ah non, mais il y a des fois des sangliers, c'est sûr. Il y a. Les sangliers, c'est. On les voit. Ou marcassins, oui. On les voit plus au loin. Mais il y a des matins où on joue au golf, où on voit passer des meutes de cerfs, de biches, de faons, etc. C'est vachement beau dans la campagne. Ça aère, on voit de la lumière, on voit des couleurs, on voit le printemps. Ça, c'est une chose à laquelle je suis hyper sensible, c'est la lumière extérieure, c'est cette nature qui se développe et qui change un peu de mon écran plat où je vois toujours les mêmes choses.
Vous pouvez me raconter vos voyages ou où vous passez vos vacances ou...
Ah, mes vacances se passent depuis des années aux mêmes endroits, puisqu'il y en a plusieurs, mais... Ça fait quelques années qu'on part en même Bretagne où on a une maison et où on fait toujours la même chose, voire dans le même midi où on a une maison et on fait toujours la même chose. L'avantage pour moi, égoïstement, c'est que j'y arrive, je suis chez moi, je mets les pieds sous la table, j'ai rien à faire à part bricoler de temps en temps, jouer au golf le plus souvent et profiter du soleil. L'inconvénient pour ceux qui s'occupent de ce qu'il y a à mettre sur la table ou de ceux qui s'occupent d'entretenir pendant que je suis au golf, c'est qu'effectivement ils ont du boulot pendant que moi je profite. Mais on voyage pas assez, c'est tout à fait vrai. On devrait avoir visité plus de choses que ça. On a eu la chance, je le disais tout à l'heure, de faire le désert algérien. C'est un souvenir que le désert algérien, le désert tunisien, marocain, c'est un souvenir que peu de gens peuvent prétendre avoir aujourd'hui, parce que c'est pas évident de faire tout au moins le désert algérien depuis 20 ans pour des circonstances politiques ou économiques, enfin surtout politiques. Aujourd'hui, si je devais voyager, je suis pas campeur. Je suis pas capable de planter ma tente et de dormir dans l'humidité, à même le sol, etc.
Pourtant, t'as été scout.
Mais oui, c'est vrai que j'étais scout, mais peut-être parce que j'étais scout d'ailleurs, parce que j'étais scout à une époque où je quittais un pays au plein mois de juillet pour me retrouver en Alsace où la température n'était pas exactement la même. Où je quittais un cocon familial pour aller retrouver des gens qui étaient plus ou moins... Ça, c'était dans les années pré-indépendance de l'Algérie, c'est-à-dire entre 60 et 62, donc, ou entre 58 et 62. Donc, on avait... Oui, on avait à l'époque une mentalité un peu paramilitaire, un peu facho, un peu un peu les garçons entre eux marchent au pas de l'oie et chantent des chansons guerriers. D'ailleurs, quand on traversait l'Alsace en chantant Aïli Aïlo, ça faisait des ordres quand même. Et donc,
J'imagine.
dormir à la belle étoile quand il fait 10 degrés alors qu'on vient d'un pays où il fait 30 degrés, bon, c'était drôle, mais comme on mangeait mal parce que la tambouille était faite par nous et qu'on dormait dans des vêtements sales parce que la lessive était faite par nous et qu'en plus il fallait traverser la Méditerranée en troisième classe d'un bateau qui puait le mouton. Où j'ai rendu mes tripes pendant 3 jours, c'était une école, mais c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui le camping, non, 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 moi je sais pas que je préfère les 3 étoiles, j'ai pas de goût particulier pour le luxe ou les choses somptuaires, mais ou somptueuses, mais somptuaires surtout, mais je partirais bien connaître l'Italie, connaître l'Espagne profonde, connaître les endroits de lumière, de couleur, etc. Mais pas forcément ni en faisant du camping, ni en descendant dans les 3 étoiles. C'est, j'irais bien, par exemple, louer des chambres d'hôtes chaque fois pour rencontrer des gens, manger leur pain, enfin leur pain, manger le pain qu'ils font. Manger ce qu'ils ont l'habitude de manger et pas forcément faire dans le hamburger ou dans le foie gras à Séville par 30 degrés.
Et vous êtes parti aux États-Unis?
Oui, j'ai fait plusieurs voyages aux États-Unis.
Vous avez peut-être des petits souvenirs?
Oui, j'ai 2 souvenirs aux États-Unis. Qui relève pas du même. J'ai 3 souvenirs. J'en ai un qui date de 85, 6, je sais plus, où on est parti avec le fameux PDG d'une boîte d'édition de logiciels dont je parlais tout à l'heure et où on a zigzagué à travers les États-Unis pour aller voir des fournisseurs de matériel ou des fournisseurs de software parce qu'à l'époque on montait plusieurs branches. Et on a traversé les États-Unis de long temps, de long en large, avec les décalages horaires auxquels on n'était pas habitué, auquel cas on a dormi dans les aéroports pendant des heures en attendant le prochain vol pour plus loin. Là, j'ai connu la côte est, la côte ouest, les Grands Lacs, le sud. Non, c'était une grande découverte. Et puis les Américains, même si je les trouve un peu niais, sont des gens qui ont une grande notion de la liberté individuelle. Et c'est un pays qui, même s'il est très policé, est un pays où on peut exister. Je ne dis pas qu'en France on n'existe pas, je dis qu'en France il y a un état de droit qui fait qu'il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, alors que là-bas, les gens qui vous reçoivent sont des gens qui ne vous disent pas il ne faut pas, ils sont là pour, ils vous considèrent comme un client, ils font ce qu'ils peuvent pour conserver votre clientèle et c'était assez sympa. Je me souviendrai toujours, un beau jour on est arrivé à 2 h de l'après-midi dans une pizza sur un bord d'autoroute gigantesque. Je vais faire le parallèle, mais si en France on s'arrête sur un bord d'autoroute à 2 h de l'après-midi, manger une pizza, en général on vous sert une vieille pizza surgelée que vous vendez, qu'on vous vend à un prix fou, et puis vous êtes prêt d'aller la bouffer dans votre coin et puis vous fermez votre gueule. Là, on est arrivé chez un pizzaïolo à qui on a demandé une pizza large pour 2 personnes. Il nous a regardé comme si on était des fous parce que la pizza large faisait 80 cm de diamètre, donc pour 2 personnes, c'était un peu beaucoup. Donc il nous a donné une pizza, il nous a préconisé de prendre une pizza moins grande, et peut-être avais-je faim ce jour-là, ou peut-être était-ce le voyage, mais c'est la meilleure pizza que j'ai jamais mangée de ma vie, elle était faite devant nous, à notre goût, à notre taille, et le type s'est acharné à nous faire plaisir, à nous servir, etc., pour 3 francs 6 sous. Ça, c'était le premier voyage. Bon, dans ce même voyage, d'ailleurs, j'ai un autre souvenir. On est allé à San Francisco. Mais ça, c'est un souvenir un peu grave. On est allé à San Francisco, on est allé à Sausalito, très exactement, c'est-à-dire de l'autre côté du Golden Gate. Et il était quoi? Il était midi, encore une fois. Et Sausalito est un petit port de pêche ou un petit Saint-Tropez local, quoi. un port de pêche plus que ça quand même, hein, avec des bateaux, des voiliers. Bon, c'était l'automne, je crois, donc il y avait encore une jolie lumière. Et on a mangé, sur le port de Sausalito, on a mangé un homard, je crois, en regardant la baie de San Francisco et Alcatraz, etc. Et mon PDG m'a dit ce jour-là, tu vois, des moments comme ça font que je ne rentrerai pas en France. Et il m'a demandé si on reprenait l'avion ou si on restait sur place et si on refaisait notre vie. Et je dois dire que cette discussion nous a tenus jusqu'au coucher du soleil sur Alcatraz. Mais c'était un moment d'exception, parce que ce monsieur qui était, j'allais dire, ni un poète, ni un anard, ni quoi, ni qu'est-ce, qui était un petit PDG besogneux, de le voir péter les plombs devant la lumière, l'ambiance, etc. C'était particulier. Et puis, l'autre souvenir que j'ai des États-Unis, c'était un voyage avec IBM. Alors, organisé par IBM, pour IBM, avec IBM, chez IBM. Ce qui veut dire quand même costard, cravate bleu marine, pas de loi, etc., etc., etc. On vous fait bien sentir que c'est IBM qui paye. Mais j'ai eu la chance, grâce à ce voyage, d'abord de creuser New York un peu, ensuite de me retrouver dans des hôtels prestigieux, dans des chambres prestigieuses, à des moments particuliers, des choses qu'on voit qu'au cinéma, du style Waldorf Astoria, Hilton de Las Vegas. C'était quand même des paysans. Et puis, un souvenir qui aujourd'hui ressurgit veut que l'on ait dîné un soir tous ensemble dans cette convention, en haut d'une des deux Twins, dans le fameux restaurant qui tournait sur lui-même et qui survolait toute la baie de New York. Et c'était un moment un peu magique. J'ai fait des photos complètement ratées d'ailleurs, mais quand je pense aujourd'hui que c'est plus possible et qu'il y a des cons qui ont fait en sorte que ce soit plus possible, j'ai un peu la haine, quoi. Voilà.
Et avant, vous faisiez des photos, non? Beaucoup plus qu'aujourd'hui.
Ouais. Parmi les choses que j'aime bien, je l'ai déjà dit, il y a la lumière, il y a la couleur, il y a les gens qui m'entourent, etc. Et c'est vrai que quand j'étais un peu plus jeune, quand c'était plus difficile de faire des photos, parce qu'on travaillait sur pellicule argentique, etc., je m'amusais, je prenais un certain plaisir à faire des photos. J'ai fait quelques clichés. La plus jolie photo que j'ai jamais faite de ma vie, c'est pas moi qui l'ai faite d'ailleurs. Enfin, c'est moi qui l'ai faite, mais c'est pas moi qui l'ai vue. C'est un monsieur que j'aimais beaucoup, qui m'a dit un jour, on était au fin fond du sud algérien, qui m'a dit regarde. Et en plus, cette photo, je l'ai perdue, donc c'est dommage. Mais la photo la plus l'instantanée, le plus probant, le plus réel, c'était ce jour-là.
C'était quoi
ton photo? Oh, c'était... Je la retrouve plus, cette photo. C'était dans le sud algérien, et on était paumé dans le désert, et puis au loin, il y avait une route sur un putain de ciel bleu cobalt, la bleu marine, bleu gitane, j'en sais rien. On voyait une route, et sur cette route, il y avait, dans l'ordre, on voyait marcher trois Fatmas, trois Boukers, trois femmes musulmanes, enfin algériennes en voilée. Mm-hmm. Derrière, il y avait trois ânes, et derrière, il y avait trois mecs. On pourrait dire que dans l'ordre des choses, on envoie d'abord les femmes, ensuite les ânes, et puis soi-même ensuite, au cas où il y ait du danger. Mm-hmm. On pourrait dire que dans la hiérarchie des choses qui ont de la valeur, on envoie d'abord les femmes, ensuite les ânes, ensuite les hommes. On pourrait dire que tout ce qu'on voudra, c'était un instantané que j'avais pas vu, parce que la photo, c'est quand même l'art, enfin, un certain style de photo, c'est quand même l'art de voir à un certain moment un truc qui se passe et que la nature ou la conjoncture des événements a voulu que. Et cette photo, je la retrouve plus et elle me manque parce que d'abord parce qu'elle m'a été indiquée par quelqu'un que j'aimais bien et que en plus elle est pleine de lumière, qu'elle est de mon pays natal et que j'aimerais bien la retrouver, oui. Aujourd'hui, je fais pas de la photo, je fais ce qu'on appelle des photos de famille, je fais du reportage de famille. Alors je me paye les communions, les mariages, pas les enterrements parce que c'est malséant, mais presque. C'est de la photo souvenir, alors que je voulais ou j'aimais bien ou j'avais envie de faire de la photo, j'allais dire d'image, de la photo de couleur, de la photo de lumière.
C'est tout ce qui reste de vous, enfin, c'est tout ce que vous avez comme passion ? Parce qu'on a fait le golf, on a fait le bricolage, on a fait la photo.
Je suis un latin, donc un latin fils d'espagnol, donc des passions, je m'en invente tous les jours. Mais c'est vrai que bon, le golf, ça m'intéresse beaucoup. C'est vrai que la photo m'intéresse beaucoup. C'est vrai que récemment, j'ai lu un truc ou j'ai entendu un truc qui m'a marqué, qui consistait à dire en avoir trop pour être sûr d'en avoir assez. Et c'est un travers de mon caractère que d'amasser ou de collectionner pour en avoir trop pour être sûr d'en avoir assez. Alors bon, les balles de golf logotées, j'en ai des quintaux et ça emmerde tout le monde. Des petites voitures de collection, ça m'a pris parce que mon grand-père m'avait donné un jour une vieille boîte de voitures. Cette histoire a 30 ans, donc un beau jour, j'ai ouvert cette boîte, j'ai trouvé des voitures qui valaient des fortunes, je les ai revendues pour acheter des merdes, peu importe. C'est comme ça qu'on fait des conneries dans la vie. Après, je me suis lancé dans la collection de petites voitures, parce que j'aime bien, effectivement, la voiture, la vitesse, les bagnoles, peu importe. Et puis, je me suis mis à collectionner les bagnoles comme un forcené, et j'y mettais tout mon argent de poche, puis ça m'a passé aussi vite que ça m'avait pris. Ça a duré 10 ans, mais bon... Ah oui, des voitures, j'en ai plein ma cave, plein mon domicile, j'en ai plein la tête, j'en ai plein les photos. Mais cette idée d'en avoir trop pour être sûr d'en avoir assez, je pourrais la mettre à n'importe quel niveau. Je veux dire que quand on va au resto, je prends 3 plats pour être sûr d'en avoir 2. Quand on va au soleil, je prends 3 jours pour être sûr d'en avoir 2. Mais bon, je crois que beaucoup de gens sont comme ça, quoi. Mais des passions, bon, oui, j'ai la passion des gens que j'aime, j'ai la passion de vivre, j'ai envie de construire, j'ai envie de bâtir, j'ai envie d'exister. C'est pas un entretien de psy, mais ça va le devenir.
Oui, ça continue. Oui. Ça va le devenir. Sinon,
qu'est-ce que tu veux dire?
Bah, j'ai perdu, donc ça va me revenir.
Tu parlais des passions?
Oui, mais justement, vu qu'on a fait le tour, je voulais t'amener un autre truc. Je veux dire, on a fait le voyage, on a fait les passions. Zut. Oui. Si un jour, dans pas longtemps, enfin, dans 30 secondes, tu vas me...
Vas-y.
Vous allez bientôt aller voir la retraite, on va dire ça.
Enfin, bientôt. Oui.
Bientôt, c'était...
Oui. Vas-y.
Vous feriez quoi de vos journées ? Pas-tu ?
Si je devais chercher comment... Parce que je suis pas sûr de... Je suis pas sûr que la retraite, ce sera effectivement pour moi facile à vivre, parce que si j'ai pas de motivation à me lever le matin pour aller faire quelque chose qui me fasse avancer, je sais pas comment je vais vivre, mais... Aujourd'hui, je me lève pour aller bosser, parce que bosser, c'est pas forcément qu'une nécessité, c'est aussi la réalisation de soi-même. Demain, si je devais me lever en me disant « j'ai rien à foutre et vivement ce soir qu'on se couche », je crois que la première tentation, ce serait de me livrer à mes occupations favorites, ce qui veut dire probablement le golf, probablement, effectivement, la photo, probablement... mais il y a un truc qui me... Il y a un troisième sujet qui me plairait bien, c'est justement recommencer ces espèces de trips qui font qu'on rencontre des gens, qu'on voit de la lumière, qu'on voit des pas des civilisations, mais des ailleurs, des autrement, des. Parce que j'en ai un peu plein le cul de la région parisienne et du
Décidément.
plafond gris et de. Ouf, non, attends, je suis pas né.
Non, mais il y
Je
en
suis
a
pas
plein,
né
hein. Sinon, il y
dans
en
le
a plein qui
noir,
veulent
parce que
partir.
tout le monde veut se tirer, tout le monde veut se tirer. C'est évident que le business est à Paris, mais c'est évident que tu parles à maman, tu parles à Agathe, toi, je ne sais pas encore, mais tu es peut-être un peu jeune, mais je sais qu'Agathe, si elle pouvait, elle me l'a déjà dit, si elle pouvait faire autrement avec la lumière, elle est sensible à la lumière, Agathe. Maman, qui n'est pas forcément pied noir et qui n'est pas forcément une fille du Sud, tu lui dis demain matin on part au soleil où les lumières sont différentes et où l'architecture est différente, elle part. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je partirai pas en camping-car parce que c'est pas mon style, j'achèterai pas une cuissette en plastique ou un maillot de bain en thermolactyle, je sais pas quoi, mais je partirai bien me plonger dans la lumière, dans les gens, dans le soleil, dans le plaisir de vivre, même si il est vrai que les gens du Sud sont plus focus que les gens du Nord. J'ai beaucoup apprécié les gens du Nord quand j'étais à Lille, quand je visitais les gens de Strasbourg, etc.
Mais là, c'est dans le cadre du travail.
C'était. Oui, mais c'est des gens. Ça reste des gens vrais, ça reste des gens sympas, ça reste des gens ouverts, ça reste des gens sincères. Les gens du Sud, bon, c'est plus de la faconde, c'est plus tu m'as vu, tu m'as pas vu, ben regarde-moi, je suis meilleur, je suis plus beau, je suis plus riche. J'allais dire, il n'y a pas plus snob que les gens du Sud qui se la pètent de voitures, de tenues, de maisons gigantesques. Alors qu'il y a des fortunes au moins aussi importantes dans le Nord, de gens qui sont beaucoup plus discrets. Mais bon, c'est vrai que moi, la lumière me manque. C'est vrai que je prends. Quand je disais tout à l'heure que je mets les pieds sous la table à Carnac ou dans le Midi, il y a une chose qui me fait me lever le matin, c'est la lumière. C'est clair que je prends un plaisir fou à regarder le ciel, à regarder la lumière, à regarder le soleil, à regarder la nature de ces endroits-là où je vais pendant les beaux jours. Allez, l'autre jour, j'ai dit à Annick, quand on aura un peu de temps et un peu de moyens, j'aimerais bien aller passer une semaine en Toscane. Je sais même pas ce que c'est la Toscane, je sais même pas où c'est, je sais même pas ce qu'il y a, mais l'idée que j'en ai, c'est la lumière et la sérénité. Peut-être que le périphérique à 6 heures du soir ou à 6 heures du matin, ça me gonfle un peu, quoi.
Voilà, maintenant ça va un peu mieux.
Oui, maintenant je me déplace moins, je roule moins, etc. Mais tu sais,
Tu te détends pas forcément.
derrière les barreaux, avoir un mauvais rayon de soleil qui de temps en temps tombe, bon, c'est vrai qu'on est à la fin de l'hiver et que j'en ai un peu plein le cul, mais. Tiens, si tu devais me demander quelle serait
Oui.
ma maison de demain, ce serait
Non, c'est bien.
forcément une maison à la campagne, enfin, tout au moins pas en ville, où
Elle est
j'aurais
quand même
la vue
loin.
à perte de vue et où il y aurait de la lumière. Je sais pas où, je sais pas qui, je sais pas quoi. Je veux dire, je dis pas plus dans le sud-ouest que dans le sud-est, plus en France qu'à l'étranger, mais récemment, bah, c'était à Noël. Récemment, j'étais voir un client à Fos-sur-Mer, et en rentrant, je suis passé devant un terrain à vendre qui dominait la falaise de Carril-Rouet, qui est une station balnéaire sur la Méditerranée. Je suis allé voir le terrain, alors que j'étais pressé comme pas possible parce que j'avais un rendez-vous, etc., etc. Et j'ai découvert un terrain qui donnait sur une falaise, qui était surélevé, qui donnait sur une falaise un peu moins surélevée, qui était ocre rouge, qui donnait sur une mer bleu gitane, dans un soleil existant, même si pas très éclatant, avec la vue à perte de vue, etc. J'en rêve. Alors évidemment, si je regarde le prix du mètre carré à Carry-le-Rouet, bon, je pense pas que je me l'achèterai un jour, mais j'aimerais bien effectivement prendre mon petit déj tous les
Et
matins, je
ça
vais
c'est
dire un
rémunérant.
poncif, mais
Ouais.
bon.
Ça Face à la mer, ça doit être...
Face à la mer, c'est autre chose que dans le nouveau hôtel du coin, face à la note de frais, quoi.
Oui, face à...
Voilà ma fille.